Les mots s'écrivent, les mots se parlent, les mots s'écoutent. Les mots prennent tout leur sens et deviennent une mosaïque de rubriques. Les Mosaïques des Vies, votre émission en direct, les 2e et 4e jeudi du mois à 11h et rediffusion le dimanche suivant à 16h.
Les mots, les mosaïques.
Les mots,
les mosaïques,
les mosaïques, les mosaïques des vies.
Bonjour à tous. Ce matin, je suis en Fauneur avec Anne-Claire Chauvency de la Fondation Assistance aux Animaux qui va nous parler des actions de la Fondation. Anne-Claire, bonjour.
Bonjour Evelyne.
La Fondation Assistance aux Animaux est très ancienne en France. D'ailleurs, c'est même, je crois, la plus ancienne des fondations d'assistance aux animaux.
Oui, c'est ça. Elle a été initialement créée dans les années 1930 et elle est devenue fondation reconnue d'utilité publique en 1989, ce qui fait d'elle, du coup, la première fondation de protection animale en France.
D'accord. Et vous intervenez donc pour venir en aide aux animaux abandonnés et maltraités. Et vous avez 5 grands axes d'action qui sont donc les refuges, les dispensaires, les maisons de retraite, un centre d'accueil et une ferme pédagogique.
C'est ça.
Alors nous allons parler plus en détail de chacun de vos axes et nous allons commencer par les refuges.
D'accord.
Combien de refuges il y a en France au sein de la Fondation ?
Alors actuellement, au moment où je vous parle, la Fondation dispose de 7 refuges répartis un petit peu partout en France, ce qui leur donne une capacité d'accueil d'environ 2000 à 2500 animaux en adoption et en abandon.
D'accord, donc 2500 pour vos 7 refuges.
C'est ça.
Ouais, c'est beaucoup, beaucoup de pensionnaires, malheureusement.
Et oui, toujours trop, malheureusement.
Ouais. Et vous ne pratiquez pas l'euthanasie dite de convenance ?
Non, on a choisi effectivement de ne pas pratiquer l'euthanasie de convenance parce qu'en fait, on ne trouvait pas ça juste. C'est un choix qu'on a pris dès la création, en fait, dès les prémices de la Fondation. Et on s'y tient toujours aujourd'hui. On n'est pas en accord avec le fait de devoir euthanasier un animal uniquement par manque de place ou uniquement parce qu'il est trop vieux ou qu'il n'est pas assez, entre guillemets, beau pour être adopté.
D'accord. Donc l'animal reste vivant jusqu'à sa fin de vie.
C'est ça.
Voilà.
Alors en fait, on parle d'euthanasie de convenance. Donc du coup, nous, on va considérer que la convenance, ça va être ce qui n'est pas médicalement justifié. Il est évident que si l'animal a une pathologie qui le fait souffrir et qu'on ne peut pas soigner, on n'est pas là non plus pour faire souffrir les animaux. Donc
bien
il y aura une euthanasie médicale pour abréger malheureusement ces souffrances. Mais par contre, il n'y a pas d'euthanasie qui ne soit pas médicalement justifiée.
Très bien, d'accord. Et quel type d'animaux sont accueillis au sein des refuges ?
Alors, dans les refuges, c'est en grosse majorité des chiens et des chats. On a certains sites qui accueillent également d'autres espèces, notamment on a un site dans le Gard qui accueille qui est très grand, donc du coup qui a la possibilité d'accueillir des chèvres. On a quelques équidés sur le site et de la volaille, parce que malheureusement il n'y a pas que les chiens et les chats qui sont victimes d'abandon, mais aussi les autres espèces.
Oui. Et parmi les NAC, c'est-à-dire les nouveaux animaux de compagnie, ça arrive qu'on puisse vous en déposer ?
Alors ça arrive. Il est préférable quand même d'appeler avant pour s'assurer que le refuge dispose bien des moyens en fait d'accueillir l'animal en question. Ça nous arrive effectivement de récupérer des lapins, des cobayes, des souris, des rats. Voilà, ça nous arrive également dans le cadre de procédures de recueillir des animaux type serpent ou reptiles, tortues, etc. Mais il est préférable d'appeler d'abord parce que tous les sites n'ont pas les moyens de les accueillir convenablement.
Bien sûr. Puis j'imagine, par exemple, une mygale. Enfin, je prends l'extrême, mais bon.
Ah ben, on en a une, figurez-vous.
J'aurais pas imaginé.
On en a une en charge dans le cadre d'une procédure. Et que du coup, on a fait avec les moyens du bord, on est vite allé acheter ce qu'il fallait pour pouvoir la détenir dans de bonnes conditions. Mais là, ça y est, elle est partie dans un centre spécialisé où elle peut enfin vivre en semi-liberté, quoi.
Pleinement sa vie d'araignée.
Exactement.
Alors, vous conseillez, j'imagine bien, vous conseillez d'adopter plutôt que d'acheter un animal de compagnie.
Oui, d'une part parce qu'il y a une question éthique. Est-ce que qui on est pour mettre un prix sur une vie. Est-ce que c'est acceptable éthiquement ou pas? Nous, on considère que ça ne l'est pas. Donc il y a cette première raison-là. Mais il y a également le fait qu'il y a énormément d'animaux aujourd'hui qui sont abandonnés en refuge, que les refuges débordent, tous les refuges débordent, et qu'il n'est pas forcément raisonnable d'aller acheter un animal qui va être produit alors que les animaux de refuge sont déjà bien trop nombreux.
Oui. Y a-t-il des frais à payer lorsqu'on adopte un animal ?
Il y a effectivement une participation aux frais qui va couvrir une partie des soins qui ont été prodigués à l'animal. Il faut savoir que chez nous, les animaux sont tous à jour de leur vaccination. Ils sont tous identifiés par tatouage ou par puce et ils ont également été stérilisés. Tout ça a un coût pour de fait, on essaie de faire participer les gens en fait à ce coût-là. Donc en moyenne, selon que ce soit un chien ou un chat, la participation aux frais va varier entre 100 euros et 200 euros.
Oui. Oui, ce qui est minime quand on voit exactement le fait d'acheter un animal dans une animalerie, le coût n'est pas du tout le même, bien sûr.
Pas du tout. En moyenne, en animalerie, un chien va coûter au minimum dans les 500 euros. Et vraiment, c'est le minimum, ça peut aller jusqu'à 1500 euros. Et l'animal devra être identifié parce que c'est la loi, mais il faudra faire tout le reste. Donc après, il y a la stérilisation, les vaccins. Voilà, une stérilisation, c'est minimum 150 euros. Un vaccin, c'est 80 euros.
Et en plus, là, vous faites... la personne fait en plus une bonne action d'adopter.
Exactement. D'autant plus que comme on ne pratique pas d'euthanasie, voilà, il faut savoir que nous, un animal qui va sortir, qui va trouver une famille, l'animal, bah, forcément, débute une nouvelle vie et c'est ce qu'on recherche pour eux. Mais en plus, il va libérer sa place pour un autre qui va en avoir besoin.
Oui, oui, oui. Et j'ai envie de dire, moi, quel que soit le choix de la personne, qu'elle décide d'acheter son animal ou qu'elle décide de l'adopter, il faut surtout bien réfléchir avant de faire l'acquisition d'un animal. Il ne faut pas céder au coup de cœur.
Non, effectivement, beaucoup trop de personnes peuvent être tentées de céder sans s'être préparées à l'acquisition d'un animal. Voilà, ils vont passer, ils vont se balader, ils vont tomber sur une animalerie, ils vont se dire « Oh mon Dieu, il est vraiment trop mignon, celui-là, je craque ». C'est typiquement l'erreur à ne pas faire. Il faut prendre conscience de la responsabilité, de la charge en termes de temps et en termes effectivement de contraintes et d'argent que ça va représenter. Et quand on a pris cette mesure-là, si on est prêt à s'investir en fait dans la relation avec l'animal, alors aucun problème, tout se passera bien. Mais il y a malheureusement les chiens qu'on retrouve aujourd'hui en refuge, outre les mauvais traitements, la plupart sont des animaux qui ont été acquis par achat et qui se retrouvent abandonnés au bout d'un an, voire même 6 mois, parfois même encore plus tôt, parce que les gens ont regretté 2 semaines après, quoi.
Ouais. Et il est important de rappeler les contraintes liées à un animal, parce que j'ai un chien, moi-même, je suis heureuse d'avoir pris cet animal, mais mon cas personnel, on a réfléchi avec mon mari près de 3 semaines avant de le prendre, parce qu'on savait qu'il y avait des contraintes. Mmh. Vous pouvez les rappeler, ces contraintes ?
Alors oui. Il y a des contraintes déjà en termes de temps. Un animal, il faut lui accorder du temps. Les animaux vivent. Nous, on a une vie en fait à côté de nos animaux. Eux, leur vie, c'est nous. Donc, on est en devoir. On a le devoir de leur partager en fait, de leur octroyer du temps. Il faut les sortir. Qu'il y ait un jardin, qu'il n'y ait pas de jardin, un chien, ça a besoin d'être sorti régulièrement, de rencontrer des congénères. Voilà, tout ça, ça demande quand même. De la motivation et de l'investissement, parce que quand il fait froid, qu'il neige et qu'il pleut, on n'a pas forcément envie de sortir, mais il faut le faire. Pour lui, il faut le faire.
Bien sûr, d'autant plus si la personne est en appartement.
Exactement, en appartement, ça va être d'autant plus primordial. Et surtout que si on acquiert un chiot, il faut savoir qu'il va falloir lui apprendre la propreté et que du coup, il faudra le sortir vraiment souvent afin qu'il puisse acquérir cette propreté le plus rapidement possible. Donc les sorties, les gens, j'ai l'impression que les gens s'y préparent pas toujours. Ils se rendent pas compte en fait qu'au lever du lit, limite avant de s'être fait un café, si on a un appartement, voilà, il faut sortir le chien parce qu'il a besoin de faire ses besoins. Donc c'est une contrainte d'une certaine manière, mais c'est aussi un plaisir que de sortir son animal, que d'aller se balader avec lui.
Bien sûr.
Il y a ça, il y a aussi, il faut anticiper les éventuelles absences, les congés, les vacances, les week-ends.
Faire garder son animal.
Exactement. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'il peut venir avec nous? Où est-ce qu'on va? Il faut éventuellement payer quelqu'un pour le garder, des pensions, avoir de la famille qui est prête à le garder en cas d'absence. Ouais, c'est des choses qui sont effectivement à anticiper. Et faut pas négliger non plus le coût financier, entre guillemets, l'entretien que ça va demander. Un animal, quand tout va bien, un chien, on va dire, si tout va bien, qui n'a pas de gros problèmes de santé, c'est une vaccination annuelle qui doit tourner dans les 80 euros. L'alimentation qui va coûter, on va dire, allez, 40 euros par mois. Il va y avoir également tout ce qui est stérilisation et compagnie, les ustensiles, le panier, le dodo, les jouets et compagnie. Voilà, les frais peuvent grimper, quoi.
Alors, une fois qu'on a fait le tour et qu'on a adopté son animal, eh bien, on est heureux parce que c'est que du bonheur.
Voilà. Et effectivement, c'est vrai qu'on parle toujours des contraintes, mais il ne faut pas... il y a franchement beaucoup plus d'avantages
je suis d'accord.
Que de contraintes.
Mais, voilà. Mais il était important de parler de ces contraintes parce qu'il m'est arrivé dans le passé, j'avais une collègue dans un autre emploi, elle me parlait tous les jours de son petit chiot qui était un labrador, tous les jours avec émerveillement et joie. Jusqu'au jour où je ne m'en parle plus, je lui ai posé des questions. J'ai dit, mon fait, tiens, comment va ton labrador ? Ah ben, tu comprends, on l'a mis au refuge parce qu'on s'en est séparés. Il était trop grand avec les petits, les enfants. Ça devenait embêtant.
Voilà, ouais.
Ça m'a coûté énorme, mais bon.
C'est typique, ouais. Malheureusement, ouais. Et ça, c'est ouais. des choses qui... On n'en a pas parlé, mais effectivement, un chiot, c'est toujours petit, c'est toujours mignon.
Exactement.
Il faut quand même se renseigner sur la taille qu'il va atteindre et les caractéristiques qu'il pourrait avoir une fois grand, hein, histoire qu'il n'y ait pas de surprise, quoi.
Tout à fait. Et vous avez également des dispensaires. Alors, c'est comme pour les humains, comment ça se passe ?
C'est ça. C'est le même concept, en fait, que les dispensaires pour humains. C'est une idée qui est venue à la Fondation parce qu'en fait, on avait constaté qu'il y avait des personnes qui nous amenaient en abandon leurs animaux dans nos refuges. Mais ce n'était pas des abandons de complaisance. C'était parce qu'en fait, les animaux souffraient de pathologies diverses et que les personnes n'étaient pas en mesure de financer leurs soins. Donc c'était presque ce qu'on pourrait dire un abandon d'amour en fait. Ils ne pouvaient pas le soigner, l'animal était en souffrance, donc ils s'en séparaient pour qu'il ait une chance d'être soigné en fait. Et voilà, c'était vraiment des situations qui pour nous n'étaient pas acceptables parce que tout le monde en souffrait. Et on s'est dit, bah voilà, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et on a créé notre premier dispensaire sur Paris. C'est des cabinets vétérinaires, hein, comme un cabinet libéral, ça fonctionne sur le même principe, sauf qu'en fait, les soins, les services proposés sont gratuits, mais qu'une participation aux frais est proposée aux personnes qui le peuvent. Donc, quand on n'a pas les moyens, quand son animal, par exemple, souffre d'une tumeur, par exemple, qu'il faut le faire opérer, ça peut monter à plusieurs centaines d'euros très rapidement.
Bien sûr.
Voilà, et les dispensaires permettent de pouvoir soulager la douleur de l'animal sans se ruiner.
Voilà. Donc, c'est réservé aux animaux de compagnie dont les propriétaires sont en difficulté financière.
Exactement. C'est réservé aux personnes qui ont des difficultés et où le moment venu, le moment où l'animal en a besoin, ne sont pas en mesure de subvenir à ses soins. Généralement, dans les dispensaires, on rencontre beaucoup de retraités, d'étudiants, de personnes qui sont au RSA, de personnes qui ont eu un accident de la vie et qui sont sans ressources. Voilà.
D'accord. Et vous avez aussi des maisons de retraite.
Oui, effectivement.
Alors ça m'a interpellée. C'est sympa.
Oui, c'est vraiment, c'est vraiment très... moi, c'est la partie préférée que j'adore quand on visite les établissements. C'est ce que j'adore voir. En fait, c'est des... On a remarqué, et c'est malheureusement toujours actuel, que les personnes âgées qui deviennent dépendantes, souvent sont contraintes de se séparer de leur animal parce qu'en maison de retraite, on ne les accepte généralement pas.
Bien sûr.
Il y a aussi des personnes qui se refusent à prendre un animal parce qu'elles se disent, voilà, j'ai par exemple 78 ans, et si demain il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui va devenir ? Je veux pas qu'il me survive, ce sera trop compliqué. Et du coup, qui se privent et qui privent en fait un animal d'être heureux. Et à ce moment-là, on s'est dit, ce serait bien de construire des maisons de retraite dédiées à l'accueil des animaux, des vieux animaux, et qui leur permettent en fait d'avoir une vie en liberté dans un cadre familial. Le principe, c'est vraiment une maison, une grande maison avec un grand terrain qui va être aménagé pour les animaux. Donc, en fonction, voilà, si la maison va accueillir des chiens, il y aura des petits dodos bas, des canapés, etc., des grands terrains. On a du personnel en fait qui est sur place, des soigneurs animaliers qui s'occupent d'eux au quotidien, des personnes qui dorment sur place pour qu'en fait les animaux ne soient jamais seuls parce qu'il faut les surveiller, on ne sait jamais, c'est des vieux animaux donc ils peuvent avoir un problème. Et c'est aussi intéressant dans le sens où quand on a des vieux animaux qui arrivent en refuge, ce sont des animaux qui ont malheureusement très peu de chances d'être adoptés parce que les personnes ont peur de s'attacher à un animal âgé qui, bah, forcément, a une espérance de vie plus réduite en fait qu'un autre. Et on se dit, voilà, ces animaux qui ont été choyés toute leur vie avec leurs propriétaires vont se retrouver dans un box et ils ne seront jamais adoptés. Donc c'est une solution, une alternative intéressante pour eux.
Et les animaux qui sont amenés à pouvoir être accueillis dans ces maisons de retraite, quels sont les critères d'accueil ?
Alors, en fait, dans les maisons de retraite, on limite volontairement les effectifs parce que on ne peut pas se permettre que les animaux soient en surnombre. Comme ils sont en liberté, il faut que tout se passe bien, il ne faut pas qu'il y en ait trop pour qu'on puisse avoir un œil sur chacun. Dans cette mesure-là, le principe, c'est que les conditions d'accès aux établissements qui sont les maisons de retraite, c'est réservé aux personnes qui sont soit donatrices de la Fondation, soit qui font un legs en faveur de la Fondation, à charge pour la Fondation Assistance aux Animaux, de prendre leur animal en maison de retraite, si toutefois il devait leur arriver un pépin.
D'accord. Donc la personne couchera sur son testament le souhait que son animal soit accueilli par vos soins.
Exactement.
D'accord. Et en parallèle, elle fera un legs. Il y a un montant minimum ?
Il n'y a pas de montant minimum parce qu'en fait, tout le monde ne dispose pas des mêmes facilités ou des mêmes revenus, tout simplement, et qu'on ne considère pas juste que les personnes qui n'ont pas de moyens ne puissent pas être sereines quant au devenir de leur animal. Donc il n'y a pas de montant minimum. Les participations les plus élevées vont permettre de compenser les moins importantes et ça permet aux établissements de fonctionner.
D'accord. Et vous possédez également un centre d'accueil pour les équidés.
Tout
donc
à fait.
Chevaux, ânes, mm-hmm. Voilà. Il y en a plusieurs ou il y en a qu'un seul ?
Alors actuellement, il n'y en a qu'un seul qui se trouve dans les Yvelines. C'est un centre qui accueille essentiellement des animaux. La plupart ont été... c'est des abandons de troupeaux, en fait. Les personnes qui prennent un cheval, mais qui... ou plusieurs, d'ailleurs, malheureusement, et qui n'ont aucune idée de la manière dont on s'en occupe, et puis qui lâchent l'affaire en se disant on va le laisser dans sa pâture, il va très bien s'en sortir. Sauf que pas du tout. Donc la plupart des animaux qui sont arrivés chez nous sont des animaux qui ont été abandonnés par leurs propriétaires dans leur pâture. C'est également des animaux, des vieux retraités de la garde républicaine qui ne peuvent pas conserver. Voilà, c'est des animaux qui malheureusement auraient fini à l'abattoir hein, probablement s'ils n'avaient pas été pris en charge. On en a une cinquantaine actuellement sur le site des Yvelines. On en a des très vieux, on en a certains qui ont 34 ans. Hein. Ils sont choyés en fait par leur soigneur qui est complètement passionné des équidés. Et ce sont des animaux qui peuvent être proposés à l'adoption.
On peut adopter un cheval ou un âne.
On peut adopter un équidé, d'ailleurs, on peut adopter n'importe quel animal chez nous. On peut également adopter des chèvres ou des poules ou des coqs. Mais bon, pour les équidés, c'est vrai qu'on va avoir un regard extrêmement vigilant parce qu'on a l'expérience de ces personnes qui n'ont pas idée de l'entretien que ça réclame.
Oui.
Donc voilà, l'adoption est tout à fait possible, il y aura une participation aux frais. Par contre, il y aura une pré-visite afin de voir comment va être la pâture, est-ce que l'animal va être seul, est-ce qu'il va avoir un abri, comment la personne compte s'en occuper, etc. Voilà, et puis si tout est parfait, effectivement, il est possible de repartir avec le cheval.
Et on peut également même le parrainer.
Et on peut effectivement parrainer les animaux. Là, c'est pareil. L'idée, c'est que tout le monde n'est pas en capacité, en fait, de pouvoir accueillir un animal. Il y a beaucoup de gens qui aiment les animaux et justement parce qu'ils les aiment, ils se savent pas capables de pouvoir en avoir un parce qu'ils travaillent beaucoup, parce qu'ils ont beaucoup de déplacements, etc. Ou alors qu'ils n'ont pas de pâture et qu'ils aimeraient bien avoir un cheval. Voilà. Et dans ce cas-là, il est possible de les parrainer. En fait, c'est un système qui permet à la personne d'entretenir une relation privilégiée, on va dire, avec l'animal qu'elle va choisir, de lui faire des petits présents, d'aller le voir, si c'est un chien, de le sortir, si c'est un chat, de lui faire des petits cadeaux, des petits jouets, etc. Et surtout, de parler de lui autour de la personne. L'idée, c'est de favoriser aussi l'adoption de l'animal en parlant de lui. Donc c'est pour ça que souvent, les animaux qui sont en parrainage sont des animaux qui ont moins de chances que les autres de trouver une famille, ou alors ce sont des animaux qui sont là depuis longtemps. Et souvent, le parrainage leur permet de trouver une belle famille, et en plus, dans les proches, souvent, du parrain.
Voilà, alors le parrainage est totalement affectif, il n'y a pas de coût financier envisagé.
Il est possible, c'est possible. On a des parrainages où les personnes nous envoient, par exemple, 20 € par mois pour acheter une couverture ou autre chose, en fait, pour leur filleul. Mais l'intérêt est aussi quand même d'aller le voir, voilà, de prendre de ses nouvelles et surtout de parler de lui, quoi.
Eh bien, nous allons reprendre après une pause musicale. Vous allez écouter donc Michel Sardou, Le lac du Connemara. Et nous reviendrons après avec Anne-Claire.
Brûlé au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix, Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de Limerick. Maureen a dit oui. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de quoi boire trois jours et deux nuits. Là-bas au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas au Connemara, on dit que la vie c'est une folie et que la folie ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps des Gaël et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Là-bas au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois, ni celle des rois d'Angleterre. We'll be right back.
Eh bien, vous êtes en direct sur Alternative FM, donc dans l'émission Les Mosaïques des Vies. Et je suis en phoneur donc avec Anne-Claire Chauvency de la Fondation Assistance aux Animaux. Donc, nous reprenons cet entretien extrêmement enrichissant et très intéressant. Et le dernier, Anne-Claire, donc le dernier axe, je dirais, sur lequel vous agissez, c'est la ferme pédagogique.
Oui, en effet.
Donc, c'est une ferme, j'imagine bien, à visée éducative.
Oui, tout à fait. Elle a une idée, l'objectif est purement pédagogique, mais aussi éthique, parce que les animaux qui sont accueillis à la ferme pédagogique sont des animaux qui ont eux aussi pas eu une vie facile, qui ont été pour la plupart saisis dans le cadre de procédures pour des faits de mauvais traitements. Voilà, donc la ferme se trouve à Versailles. Elle est accessible aux enfants et l'objectif de la ferme pédagogique, en fait, est d'apprendre aux enfants à connaître des animaux de ferme, les connaître en fait pour mieux les respecter et les respecter pour mieux les aimer. Le principe, c'est de se dire que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes et aussi les décideurs de demain, et que du coup, il est important de leur inculquer dans leur éducation le respect de l'animal. Et ça passe très bien lorsqu'on est mis en relation, en contact avec des animaux de différentes espèces. Les enfants sont très réceptifs aux animaux. Tous les enfants adorent les animaux, et ça permet en fait de leur apprendre que bah voilà, un cochon c'est aussi propre qu'un chien par exemple, aussi affectif, que eux aussi ont besoin d'être maintenus propres, qu'ils ont besoin de voir l'extérieur, qu'ils sont tout aussi sensibles que n'importe quel autre être vivant en fait.
Voilà, et cette ferme pédagogique est ouverte bien sûr aux scolaires, aux groupes scolaires.
Mmh,
et est-elle ouverte au public ?
Alors, elle est ouverte en visite extérieure au public dans la mesure où elle se trouve dans une partie du parc du château de Versailles. Donc, lorsqu'on accède au parc du château, on peut visiter la ferme, ça c'est pas problématique. Pour ce qui est d'avoir vraiment une après-midi pédagogique avec les enfants, c'est possible de réserver une après-midi avec un groupe d'enfants, par exemple à l'occasion d'un événement, d'un anniversaire ou quelque chose comme ça. Il faut qu'il y ait au moins une petite dizaine d'enfants pour que déjà ils s'amusent, mais aussi que parce qu'on peut pas recevoir individuellement les enfants, sinon ce serait trop compliqué. Voilà, en général, on demande à ce que les enfants soient âgés au moins de 6-7 ans, parce que en deçà de ces âges-là, ils sont trop, ils comprennent pas l'idée. Ça les intéresse pas forcément en fait. Ils sont réceptifs en général vers 6-7 ans, voilà, et ça va jusqu'à 14-15 ans, dès lors qu'ils en ont envie en fait.
D'accord. Et un autre sujet qui concerne en fait tout le monde, si par exemple je suis témoin d'une maltraitance animale, par exemple je suis dans la rue, je me promène et je vois une personne qui frappe son chien, qu'est-ce que je fais ?
Alors, la Fondation, c'est vrai qu'elle a un service enquête qui est assez développé. On traite beaucoup de signalements chaque année. On en reçoit plusieurs centaines effectivement. Et on récupère environ entre 6 et 800 animaux maltraités chaque année. La maltraitance, aujourd'hui, elle prend plusieurs formes. Il y a la maltraitance, on va dire, active. Donc là, c'est typiquement l'exemple que vous me donnez. Je suis dehors ou je suis chez moi et j'entends mon voisin qui est en train de cogner sur son chien. J'entends le chien qui hurle de douleur, etc. Dans ce cas-là, la première chose à faire, si c'est de la violence physique sur un animal, c'est de composer le 17 pour que la police intervienne. Parce qu'il faut savoir que c'est compliqué de prouver des violences physiques sur un animal si l'animal n'a pas de stigmate. Donc oui. Si nous, on reçoit un signalement, on va essayer de le traiter, mais malheureusement, ce sera complexe parce que la personne ne va pas frapper son chien devant nous. Donc si l'animal est en bon état par ailleurs, on n'aura pas la preuve que l'animal a été battu. Donc le 17, ça permet que la police vienne constater tout de suite, voire même en flagrant délit, idéalement, ce qui permet de retirer l'animal tout de suite. Et c'est aussi possible de prendre des vidéos, malheureusement, c'est pas toujours facile, mais ça permet d'avoir une preuve et là d'intervenir a posteriori. Après, il y a aussi tout ce qui est maltraitance qu'on va qualifier de passive. Donc là, ça va être la personne qui va délaisser son animal ou qui va le maintenir dans de mauvaises conditions. Typiquement, c'est le chien qui est reclus sur le balcon, qui ne sort jamais, qui est dans ses excréments, voilà, qui est sur un petit balcon de 3 mètres carrés et sa vie se résume en fait à ce balcon. Et à ce moment-là, il est possible de nous envoyer un signalement par mail ou par courrier pour que nous, on envoie un enquêteur sur place qui vienne constater les faits et prendre des mesures en fonction du cas sur lequel il va tomber.
Très bien. Recherchez-vous des bénévoles ?
On est toujours en recherche de bénévoles à la Fondation Assistance aux Animaux. On recherche effectivement des bénévoles, on cherche deux types de bénévoles.
Oui.
On recherche des enquêteurs bénévoles, parce que chez nous, on a environ 300 enquêteurs bénévoles, qui sont généralement les personnes qu'on va missionner pour aller vérifier des signalements qu'on aurait pu recevoir, mais aussi qui vont être amenés à faire des contrôles d'adoption. Donc nous, les animaux qu'on place en refuge, on aime bien savoir que tout va bien. Donc de temps en temps, on envoie quelqu'un lui rendre visite pour voir que voilà, tout se passe bien, qu'il n'y a pas de souci. Et on recherche également des enquêteurs dans les refuges. Et on considère que des bénévoles dans les refuges.
Oui.
Et on va considérer que le bénévole en refuge est présent pour apporter un plus à l'animal. Donc ça va être en fait égayer son quotidien. C'est vrai que les animaux peuvent s'ennuyer, c'est pas une vie super réjouissante, hein, une vie de refuge, même si on fait au mieux pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Et là, le bénévolat, ça permet de les sortir plus souvent, de les faire jouer, de maintenir en fait une relation humaine avec l'animal et du coup, par conséquent, de favoriser son adoption parce que l'animal aura été mis en confiance, aura entretenu des relations humaines avec les gens et du coup sera plus apte à se retrouver dans une famille.
Très bien. Vous ne bénéficiez pas de subventions publiques ?
Non, la Fondation ne bénéficie que de la générosité des gens, du public. On n'a pas d'aide de l'État.
Il est important de dire que vous êtes reconnue d'utilité publique. Mm-hmm. Donc, les personnes donatrices peuvent déduire, je crois, des impôts.
Tout à fait. Il y a une déduction fiscale des impôts sur le revenu en fonction du don qui va être fait. Tout à fait.
D'accord. Et quelles sont les coordonnées de la Fondation, justement, si l'on veut soit se proposer en tant que bénévole ou faire des dons financiers?
Alors, du coup, le site internet, c'est www.fondationassistanceauxanimaux.org et il est aussi possible de nous joindre par téléphone au 01 39 49 18 18 ou alors par courrier. Le siège social se trouve à Paris, au 23 avenue de la République, dans le 11e.
Très bien, Anne-Claire. Eh bien, écoutez, je vous laisse le mot de la fin.
Alors, pour conclure, moi, j'aurais envie de dire, en fait, à toutes les personnes qui nous écoutent, de leur redire l'importance de venir adopter dans les refuges plutôt que de se laisser tenter par l'achat, qui n'est pas forcément plus facile, contrairement, malheureusement, à ce que les gens pensent. En refuge, on a beaucoup d'animaux qui sont jeunes. On a également des chiots ou des chatons. On a beaucoup d'animaux qui ne demandent qu'à avoir une seconde chance, qui en seront tellement reconnaissants que la relation qui sera entretenue avec l'animal sera vraiment une relation privilégiée. Et je voudrais mettre également l'accent sur le fait de ne pas se laisser tenter à l'approche des fins d'année, des fêtes de fin d'année, de faire le cadeau d'un animal à un tiers.
Oui.
Voilà, l'animal n'est pas un objet qu'on peut offrir sans conséquence. Généralement, ça se finit toujours mal pour l'animal et pour la personne lorsque ça se produit. Alors, vouloir offrir un foyer à un animal pour Noël, c'est très bien, mais venez en refuge avec la personne concernée qui pourra elle-même créer un lien avec un animal et repartir avec.
Merci beaucoup, Anne-Claire.
Mais je vous en prie.
Et je vous remercie donc d'avoir présenté votre fondation.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
C'était les mosaïques des vies. Mots croisés, mots échangés. Mots composés rien que pour vous. Evie sur Alternative FM 106.5.
Les mots, les mosaïques.
Les mots, les mosaïques. Les mosaïques d'Evie.